Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Chers frères et sœurs, que Dieu, dans sa grâce infinie, dans son amour incommensurable, nous bénisse, vous bénisse et que ce temps d'enseignement nous fasse du bien. Je remercie le Seigneur pour sa présence. Père, merci pour ce peuple qui est là, devant toi. Et merci pour le bien que tu fais aux uns aux autres. Toi-même, tu vois l'importance de l'enseignement sur la puissance et la victoire par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Et je voudrais que cet enseignement fasse du bien, car c'est la vérité qui a franchi, c'est la vérité qui libère, celle qui guérit. Je te remercie de le faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons continuer notre enseignement sur la puissance et la victoire par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils bien-aimé de Dieu. Nous avons eu la semaine dernière à vous enseigner sur les acquis du sang de Jésus. Nous avons montré que l'un des acquis importants, c'était que le sang de Christ nous octroyait, nous conduisait, engendrait, n'est-ce pas, la délivrance de la mort et du diable. J'ai montré que la mort est le plus grand ennemi, mais que par le sang de Christ, le pouvoir de la mort était vaincu et que Dieu nous gardait jusqu'à ce que nous mourons en notre temps, n'est-ce pas, rassasiés de jour conformément à sa parole. Nous avons aussi montré que ceux qui étaient en danger de mort, qui étaient oppressés, qui avaient des oppressions sur leur vie, et tout cela qui était menacé parce que dans leur famille il y avait des puissances d'enfer, des puissances de la mort, ces personnes pouvaient également être libérées de l'oppression de la mort, de l'esprit de suicide. J'ai aussi parlé de la mort sous toutes ses formes, la mort financière, la mort émotionnelle, la mort, n'est-ce pas, sentimentale, la mort par rapport au travail, que Dieu, dans sa grâce, pouvait nous libérer de tout cela à travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons passage dans Zacharie chapitre 9, verset 11. Nous avons montré que Dieu, dans sa parole, déclare simplement ici que nous sommes libérés à cause du sang de l'Alliance. Donc Dieu dit qu'à cause du sang de ton Alliance, j'étais libéré, j'étais arraché de la mort. Zacharie 9, verset 11. Nous avons aussi vu que le sang de Christ nous délivrait de l'auteur du principe du mal, c'est-à-dire qui est le diable. Que nous ne soyons plus forcément sous sa domination, quoi qu'il existe, mais nous ne soyons plus forcément dominés, écrasés, liés par lui. Nous avons pris le passage dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est déclaré que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par le témoignage de notre bouche. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15, nous avons montré que Christ, par sa mort, a écrasé celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ces passages sont très importants parce que des fois nous avons en nous cette oppression, ces pensées qui nous font croire que nous sommes rien, que l'ennemi va toujours vaincre. Or, quand nous connaissons la parole de Dieu, nous sommes libérés parce que c'est la vérité de la parole qui nous libère. Nous avons aussi dit qu'également pour résister au diable, pour pouvoir triompher de l'ennemi, il faut absolument que nous puissions, n'est-ce pas, nous fortifier dans la vérité de la parole de Dieu, résister complètement en ne cédant pas aux mensonges, en ne cédant pas aux oppressions, en ne cédant pas à ce que nous voyons, et qu'ensuite nous devons nous revêtir des armes spirituelles afin que Dieu soit glorifié. Enfin, nous avons montré que le sang de Christ est le moyen de protection, est un moyen de délivrance. Donc, pour le passage dans Exode chapitre 12, nous avons vu que Dieu a utilisé le sang comme moyen pour briser le pouvoir de Pharaon. Malgré les 9 plaies que Dieu avait envoyées pour briser le pouvoir de Pharaon, afin que Pharaon laisse partir le peuple de Dieu, Pharaon est resté inflexible. Et j'ai dit que Dieu a utilisé la dernière arme, l'arme secrète, ce que j'appelle la bombe atomique, en faisant une allusion un peu malheureuse aux événements qui sont produits à la Deuxième Guerre mondiale où les Japonais attaquaient, n'est-ce pas, les navires américains et avec les kamikazes que nous connaissions. Et pour mettre fin à cette guerre, pour mettre fin à la puissance du Japon, les États-Unis ont balancé, n'est-ce pas, sur Nagasaki, Hiroshima, deux bombes atomiques. Quand ces bombes ont éclaté, la guerre a pris fin aussitôt parce que les Japonais se sont rendus. J'ai dit que même si cette citation n'est pas la bienvenue forcément parce que cela entraîne des centaines de milliers de morts, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu montrer que, n'est-ce pas, que si une bombe humaine a pu mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, imaginez un peu la bombe spirituelle de Dieu qui est le sang de Christ, a mis fin au combat spirituel le plus féroce que le monde ait connu, c'est-à-dire la domination de Pharaon sur le peuple juif. Et quand Dieu envoie cette dernière plaie, c'est-à-dire frapper tous les premiers égyptiens, y compris même les animaux, de la mort qui serait donc orchestrée ou provoquée par le fleuve destructeur, par l'ange de la mort, alors Pharaon a été brisé dans sa puissance et l'a lâché prise. Et cela n'a été possible que parce que le sang des animaux avait été mis sur les lenteaux des portes. Et j'ai dit que le sang est visible. Donc, lorsque le sang était mis sur les lenteaux des portes, l'ange de la mort était contraint de passer dessus. Ce qu'on appelle passer au passé dessus. Et donc, le sang des animaux a conservé, a gardé, a préservé Israël de la mort. Et j'ai même montré dans ce passage-là qu'il y a eu plusieurs bénédictions qui se sont manifestées. Le sang a apporté la protection en détruisant, n'est-ce pas, les premiers-nés et en brisant le pouvoir démoniaque de Pharaon pour laisser partir le peuple d'Israël. Donc, le sang a apporté 5 bénédictions. La bénédiction, la destruction des œuvres de l'ennemi. La protection également contre l'ange de la mort. La libération d'un peuple qui était esclave depuis 430 années. La restitution des biens. Parce que pendant 430 années, ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas été payés. Et la restauration de leur vie. Le sang a apporté cela. Donc, voilà un peu, en quelques 5-6 minutes, le résumé de ce que nous avons vu, n'est-ce pas, la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, nous continuons. Pour finir, ça sera malheureusement donc la quatrième et la dernière partie de notre enseignement. Nous allons voir aussi les autres acquis du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'un des acquis importants qu'il faut savoir ici, dans cette dernière partie de l'enseignement, c'est que le sang de Jésus-Christ nous apporte le pardon de nos péchés. C'est par le sang de Christ que nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons ça dans Matthieu chapitre 26. Cet enseignement est très important parce qu'il nous libère la conscience et de tous les mensonges du diable sur nos vies. Je lis. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Vous savez, pécher, c'est manquer son but. C'est agir contre le plan de Dieu. Et quand nous péchons, nous quittons donc l'objectif que Dieu a fixé pour nous. Et dans ce cas, nous sommes accessibles à tout le pouvoir de l'ennemi. J'espère que je me fais suivre et me fais bien comprendre. Lorsque nous péchons, nous manquons le but pour lequel Dieu a voulu que nous fassions telle chose. Et là, nous sommes exposés parce que le péché nous expose à la malédiction. Le péché nous expose au ruse de l'ennemi. Le péché nous expose à la mort, nous expose à toutes sortes de dangers, à toutes les attaques de l'ennemi. Donc, tant que le péché subsiste, l'ennemi a un droit, un accès légal, hein, a un accès sur nos vies. Alors, comment arriver à briser cela? Si le péché n'est pas pardonné, qu'il subsiste, alors notre vie est en danger. Rappelez-vous ce que David a dit dans Psaume. Il dit, tant que je me taisais, mes os se consumaient. Donc, le pardon du péché ne peut s'obtenir que par rapport au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez bien, c'est un principe qui est fondamental. Le péché entraîne la mort. Le péché nous met hors du plan de Dieu, nous met hors jeu. Vous savez très bien que quand nous jouons au football, on a vu la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, même si un joueur a marqué un super but, un genre de volée ou bien de bicyclette ou de retournement, je ne sais pas, de pied gauche, de pied droit, mais si ce joueur est hors jeu, le but n'est pas validé. Même si ce but était beau, il n'est pas pris en compte. Vous savez, le péché nous met hors jeu. Donc, tout ce que nous faisons en dehors du plan de Dieu est considéré comme inutile, n'est-ce pas? Alors, comment revenir au plan de Dieu? Puisque le péché nous conduit hors du plan de Dieu, donc nous expose à l'ennemi. Donc, un autre principe se met en marche, c'est-à-dire le principe du hors jeu, le principe de la sanction, le principe de la mort se met en branle. Or, comme le monde spirituel est un monde qui est complexe, il faut qu'il se produise un échange. Pour qu'on ne soit plus hors jeu, il faut que se produise un échange. Il faut forcément qu'il y ait la mort. Or, cette mort, dont est la conséquence logique du péché, a été donc faite ou a été réalisée, où Christ a pris cette mort sur sa vie. Donc, par l'intermédiaire de son sang, nous avons donc la rémission de nos péchés. Puisque le péché entraîne la mort. Donc, quand nous péchons et que nous demandons pardon au Seigneur, alors la mort qui devait nous arriver, les attaques de l'ennemi qui devaient nous frapper sont annulées à cause de ce que le sang de Christ vient effacer ce acte de péché et nous libère entièrement des œuvres, des puissances de l'ennemi. C'est important. Alors, comment ce pardon se réalise? Ce pardon se réalise lorsque nous confessons le péché, lorsque nous le reconnaissons. Dans nos églises, s'il y a un sujet dont on ne parle pas, dont on parle très peu, c'est le sujet du péché. On parle sur la bénédiction, on parle de la délivrance, on parle des liens ancestraux. Mais comment on peut briser les liens ancestraux si le péché demande la vie des gens? Dites-moi comment c'est possible. Comment la délivrance peut se faire si des gens ont dans leur vie des règnes du péché? Ils commettent adultère, ils convoitent, ils vivent la fornication. Alors on les prend, les démons s'en vont à cause de l'onction que nous avons. C'est évident ça. Ils iront à cause de l'onction qu'a un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais ils reviendront cette fois avec cet autre démon parce que justement, celui en qui le démon était chassé n'a pas triompher sur le principe du péché. C'est pourquoi il est important d'enseigner aux gens la vie de sanctification, la vie d'abandon du péché, afin que les délivrances puissent avoir leur efficacité. Autrement dit, nous ferons un travail inutile. Vous voyez, dans la mythologie grecque, on parle de c'est une histoire, ce qui n'est pas vrai, mais enfin, on parle de Sisyphe qui était sur une montagne et qui sans cesse roulait une grosse pierre. Donc sur la montagne, il roulait la pierre et la pierre retombait sans cesse. Il reprend la pierre, il la poussait jusqu'au sommet de la montagne. Avant d'arriver au sommet de la montagne, la pierre est tombée. C'était un travail inutile. Et même dit que Sisyphe ne travaillait pas. Ce n'était pas un travail cela. Donc, on peut arriver à cet engrenage où les choses ne marchent pas parce que justement, le péché est tapis. N'est-ce pas la porte du cœur de beaucoup de personnes? Comme a dit, n'est-ce pas, Dieu à Caïn. Il dit, le péché est tapi à ta porte, mais toi, domine sur lui. S'il n'y a pas de pardon de nos péchés, nous ne pourrons pas triompher des œuvres des ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument, comme le dit 1 Jean chapitre 1, verset 20, verset 7, arriver à la confession. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc vous voyez que le sang de Jésus nous pardonne, il purifie en ce sens qu'il fait disparaître totalement la trace du péché. Je vais le schématiser. À supposer que on vous prenne dans un film, hein, en droit on cherche par exemple des preuves, soit des preuves visuelles, on dit pas tout preuve, hein, soit par un son d'une confession, une déclaration qui avait été faite, soit par une image qui avait été prise, soit par un téléphone portable ou par une caméra. Alors comment arriver à faire en sorte que cette personne ne soit pas innocente? Si la caméra existe, si le film existe, si les photos existent, cette personne aura du mal à dire qu'elle est innocente. Mais si elle réussit par extraordinaire à récupérer le film, la caméra, et à effacer ce film devant le tribunal, on cherchera à lui dire, mais c'est vous qui avez fait ça. Il dit, mais c'est pas moi, c'est parole contre parole. Quelles sont les preuves que vous avez? On sort le film, il se trouve qu'il n'y a rien dessus sur le film. Vous voyez, c'est comme si le sang, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le péché fait que nous sommes accusés par Satan et ses démons. Maintenant, quand nous confessons nos péchés et que nous demandons le pardon de nos péchés en évoquant le sang du Christ, les photos, les clichés pris, les caméras spirituelles qui sont contre nous, normalement spirituelles, qui ont filmé ces actes et qui étaient prêts à bondir sur nous et nous accuser, le sang du Christ vient et efface tous les films. Donc les films deviennent invisibles. Il ne peut plus se produire des preuves. Donc devant le juge qui est Dieu, il va y avoir la solution de l'acquittement. C'est-à-dire qu'on dira, monsieur, vous êtes acquitté parce qu'il n'y a pas de preuve. Pour délit, comme on dit en droit, pour délit non constitué. C'est-à-dire que dans le film, on ne vous voit pas, c'est effacé, il n'y a rien. Le sang de Christ, quand nous l'invoquons, vient effacer nos péchés et fait disparaître des clichés, des caméras, des radars du diable. Tous les actes qui nous accusaient, c'est le sang de Christ efface cela. Nous ne pouvons plus être accusés. Le péché pour Dieu n'existe même plus parce que l'acte a été effacé. Ça, c'est une œuvre extraordinaire que ne peut réaliser que le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang nous purifie de tout péché et nous délivre du pouvoir du péché. Or, malheureusement, beaucoup sont sous le pouvoir du péché. Chers frères, chers sœurs, le sang de Christ est efficace. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, nous voyons également la même déclaration qui pour moi est extrêmement importante. Le verset 22 dit ceci: selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. On n'est pas pardonné à cause de nos mérites, on n'est pas pardonné à cause des pénitences. Dans les siècles passés, dans les siècles précédents, pour obtenir la rémission, les gens marchaient sur les genoux, portaient des croix, se flagellaient. Aujourd'hui, c'est terminé. C'était par ignorance que ces personnes opéraient ce genre d'action, espérant recevoir de Dieu le pardon. La mort de Christ a été si ignoble, a été si terrible, a été si dure, que toute la condamnation, n'est-ce pas, a été réalisée, n'est-ce pas? Donc nous, en confessant nos péchés, le sang de Christ nous purifie, nous efface totalement des livres écrits contre nous, et par conséquent, nous ne pouvons plus être accusé. Si on peut être sur soi des vêtements d'accusation, ces vêtements sont enlevés et le sang de Christ efface ces vêtements. Oh, quel miracle merveilleux! Si vous qui écoutez, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous ne pouvez pas aller au ciel avec vos mérites. Je ne suis pas contre la religion de quelqu'un. Je respecte les religions. Les religions se valent, mais Christ n'est pas une religion. Il est la vie, la parole faite chair. Il est venu, n'est-ce pas, pour la rémission de nos péchés. Enlevez de votre esprit, n'est-ce pas, les actes qu'il faut poser pour avoir le pardon de vos péchés. Confiez-vous au Seigneur, faites-lui confiance. Demandez au Seigneur que son sang qui a coulé à la croix vienne vous purifier et votre péché va être effacé totalement, comme si ce péché n'avait absolument jamais, jamais, jamais existé. Le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes des ténèbres. Vous avez ça dans Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Car si le sang des boucs et des taureaux et la sang du génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Alléluia. Il est impossible de servir le Dieu vivant si notre conscience est souillée. Or, le sang de Christ a réussi cette opération à sanctifier, à purifier notre conscience des œuvres mortes des ténèbres. Beaucoup de personnes sont accusées dans leur conscience. Vous êtes pécheur. Vous êtes pécheur. Vous êtes pécheur. Vous n'allez jamais aller à Dieu. Dieu ne vous aime pas. Dieu vous hait. Et cette conscience vous pousse pratiquement dans le découragement. Beaucoup de personnes ne vont plus à l'église. Elles sont découragées. Elles n'arrivent même plus à prier parce qu'elles pensent que Dieu ne les aime pas. Ou elles pensent que le péché est plus fort sur leur vie. Sachez une chose. Le sang de Christ purifie maintenant votre conscience de toutes les œuvres mortes des ténèbres. Afin que libérés de ces accusations, vous servez le Dieu vivant et vrai. Donc le sang de Christ nous accorde le pardon des péchés. Nous délivre du pouvoir du péché. Réussir troisièmement à faire la purification de la conscience par rapport aux œuvres mortes des ténèbres. Et je voudrais dire simplement ceci, parce que je l'ai dit et je pense que c'est important. Aucune délivrance ne peut prospérer si la personne pour qui on prie et donc pour laquelle on fait la délivrance est elle-même liée de la tête aux pieds par le péché. Il faut demander à cette personne de renoncer au péché d'abord. Quand elle renonce au péché, les démons savent qu'ils ne peuvent plus avoir accès au péché parce que la nourriture du diable ou des démons dans la vie des gens, c'est quoi? L'accès qu'il a offert, c'est quoi? C'est le péché. Donc, dites aux personnes de se repentir, laissez tomber le péché. La délivrance se fera dans les minutes qui suivent. Et je crois à cette parole-là. Quatrièmement, le sang de Christ nous accorde la justification. Alors, c'est quoi la justification? Le temps est très court, on ne pourra pas finir, mais je vais expliquer cela. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu nous déclare juste. C'est l'acte par lequel Dieu nous déclare juste. Ce n'est pas que nous sommes justes, mais nous sommes déclarés justes. Alors, je vais l'expliquer de manière tout à fait claire. Comme je suis aussi juriste, je vais l'expliquer à partir des arguments que nous pouvons avoir. À supposer que quelqu'un ait commis un acte, une infraction et qu'il était condamné, cette personne va en prison. En première instance, elle est déclarée coupable parce que toutes les preuves apparemment semblaient réunies, n'est-ce pas, pour qu'elle soit accusée. Cette personne ira en prison pour 2 ans, pour 3 ans. Il y a des cas qui existent comme ça. La personne part en prison, elle lui fait quelques mois. Elle interjette appel, c'est-à-dire elle va en seconde instance, elle interjette appel avec ses avocats. Elle prend des avocats qui sont plus expérimentés et elle réussit à voir les documents, n'est-ce pas, qu'elle n'avait pas en première instance pour montrer qu'en réalité, elle n'était pas impliquée dans la escroquerie ou bien dans les falsifications des papiers. Cette personne réussit, n'est-ce pas, à le prouver. Elle prend un avocat ou même si elle ne le prouve pas, elle prend un avocat qui est expérimenté. L'avocat va devant la cour. Ça se passe comme ça au ciel. Et l'avocat dit, mon client, il s'appelle Gadji Abraham. Je parle mon nom, je m'appelle Gadji Abraham. Mon client est accusé d'avoir falsifié, d'avoir fait cela. Monsieur le président du tribunal ou de la cour d'appel, je viens maintenant pour dire pour telle raison, voici les preuves, telle raison, il se trouve que le cliché sur lequel il a été vu, ce cliché n'existe pas, ou ce cliché existe, mais qu'il n'y a plus de traces, il n'y a aucune preuve. L'avocat est en train de plaider. Or, en matière pénale, on ne peut pas condamner de quelqu'un quand subisse le doute. C'est-à-dire que le doute profite toujours à la personne qui est accusée. Jésus-Christ est notre avocat suprême. Et quand il plaide pour nous, le diable sait qu'on a fait ceci. Le diable sait pertinemment que on est nous sommes mauvais, nos actes nous accusent. Mais comme le sang de Christ a été invoqué, les actes qui étaient contre nous ayant été effacés, alors Christ maintenant devant le Père dit, mais mon sang a été versé pour cet homme. Pour ses crimes, pour ses mensonges, pour ses adultères, pour ses vols, pour ses détournements, pour sa méchanceté, pour sa sorcellerie, pour ses avortements et pour toutes ces choses mauvaises et vilaines qu'il a commises. Le film n'existe plus. Mon sang a coulé et le film a été effacé. Père regarde. Le Père regarde, il ne voit rien du tout. Oh, alléluia. Et le Père dit ceci. Gadji Abraham, tu es reconnu innocent, donc déclaré non coupable. Oh, là, je sors de joie parce que l'avocat a réussi à plaider pour moi en montrant que dans le film, il n'y avait plus de traces. C'est exactement ce que réussit à faire le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères, chers sœurs, croyez que le sang de Christ nous purifie et nous justifie. C'est-à-dire que nous sommes déclarés justes. Quand Dieu nous voit, il ne nous voit plus comme Gadji Abraham, comme Michelicien ou comme telle personne, n'est-ce pas? Mais il nous voit comme des personnes qui sont revêtues du sang de son fils, n'est-ce pas? Purifiées, lavées, portant sur elles une robe blanche. Mais quand nous péchons, la robe est salie. Et quand nous invoquons le sang de Christ, la robe est purifiée. Nous sommes déclarés justes. Donc, on ne va pas au ciel avec nos œuvres. Nous partons au ciel par l'acte surnaturel, n'est-ce pas? Que a réalisé Christ à travers son sang. Vous avez ça dans Romains chapitre 5, verset 8 à 9. La justification est réalisée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne ce passage parce qu'il est important. Le livre des Romains est reconnu par les théologiens comme l'un des livres les plus importants. En tout cas, parmi les épîtres de Paul, il est cité régulièrement, n'est-ce pas, Éphésiens et Romains comme étant les livres fondamentaux en termes d'enseignement qui nous parlent de la justification par la foi et nous parlent de la délivrance du péché à cause de ce que Christ est mort et il est reconnu comme étant le second Adam qui n'apporte plus la mort mais qui apporte la vie pour ceux qui ont cru en lui. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. C'est ce que vous avez ici dans Romains chapitre 5, versets 8 à 9. Il dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et le verset 18 et 20 sont clairs. Ainsi donc, comme par une seule faute ou péché, la condamnation s'étend à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est Christ qui a réussi à nous déclarer juste par son sang, du moins pour ceux qui ont cru en son sang. Je m'arrête là pour dire que tout le monde n'est pas justifié. Et tout le monde ne sera pas justifié. Ceux qui sont justifiés, c'est ceux qui vont croire en leur sacrifice de Christ et qui vont donc bénéficier des mérites et des acquis du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes-là sont déclarées justes. Donc, si vous voyez que ça n'a rien à voir avec votre religion, ni avec votre ministère, ni avec votre église, ni avec votre mouvement, ni avec votre pasteur, ou avec votre prêtre, ou avec vos bishops, ou archibishops, ou prophètes des nations, ça n'a rien à voir avec cela. Ça a que ce soit à voir avec l'œuvre de Christ. Ce n'est pas un homme qui nous a sauvés, c'est le sang de Christ qui nous purifie, qui nous déclare juste devant Dieu. Et le passage continue ceci en disant, en effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit, pour que le péché soit amplifié. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi, la grâce et la justification sont liées par de la même source, c'est-à-dire l'eau de la croix. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous justifie, c'est-à-dire nous déclare juste devant Dieu, comme je l'expliquais tout à l'heure, à travers l'exemple du tribunal. Cinquièmement, le sang de Christ nous rachète la vanité de la vie. Le sang de Christ nous rachète la vanité de la vie. Beaucoup de personnes sont sous la pression du principe de la vanité de la vie. Elles gaspillent l'argent, elles n'ont pas une vie stable, une vie de débauche, une vie de désordre. J'ai dit bien, cette personne-là, c'est comme si elle avait été vendue au péché. Oui, nous avons été tous vendus au péché, vendus à la vanité, aux choses inutiles, à l'inutilité des choses. Mais le sang de Christ nous a rachetés. C'est-à-dire, on a été vendus au péché. Et comme Christ est mort, son sang a coulé. Donc, par son sang, il a versé, donné sa vie en rançon, en échange. Donc, il a opéré un échange divin. Donc, il nous achète à nouveau. Il nous achète une deuxième fois. Donc, il nous rachète par son sang. Donc, il nous rachète la vanité. En clair, en tant que chrétien, nous ne marchons plus selon la vanité de la vie, selon le regard de la vie. Bon, je peux comprendre que quelqu'un ait 7, 8 voitures, mais je dis, mais est-ce qu'à quoi ça sert d'avoir 8 voitures? Pourquoi ne pas prendre 3, 4 autres voitures, les vendre et puis donner ça aux églises qui ont besoin de cela ou aux missions qui sont dans les pays, n'est-ce pas, non chrétiens, non touchés par l'évangile? Regardez, il y a des choses inutiles qu'on ne peut plus faire quand nous sommes purifiés par le sang de Dieu que nous arrête. On va à l'essentiel, on considère les choses essentielles. Gloire à Dieu. Sixièmement, le sang de Christ a réussi un acte qui pour moi est un acte important. Le sang de Christ a réussi un acte important, c'est-à-dire, par le sang de Christ, la terre et le ciel ont été réconciliés. Regardez ce qui est écrit dans 1 Colossiens chapitre 1. C'est un enseignement capital, c'est un enseignement fondamental. Quand nous saisissons cet enseignement-là, nous pouvons entrer dans une délivrance personnelle, une autodélivrance. Je vous le dis. Il y a des personnes qui sont délivrées elles-mêmes quand elles commencent à confesser le péché, à invoquer le sang de Christ, en commençant à reconnaître le temps de leur péché, comme j'ai dit, à invoquer le sang de Christ. Lorsque l'ennemi est dévoilé, que le sang de Christ a effacé les actes de nos péchés, maintenant on peut dire aux démons, démons, vous partez, puissant les ténèbres, dégagez le camp. Ils vont partir parce que ce qui les liait à nous n'existe plus. N'existe plus. Je fais cette parenthèse parce que c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Regardez, et je reviens encore sur ce cas parce que c'est un parenthèse que je fais. Je crois que le Saint-Esprit me met à cœur de revenir sur cela. Ouais, le péché, c'est comme des complices qui sont dans la maison de quelqu'un. À quel moment ou comment est-ce que les voleurs opèrent? Les voleurs, selon les informations que nous avons, ne viennent jamais voler dans une maison qu'ils n'ont pas visitée. ou dans laquelle ils n'ont aucune référence, aucune connaissance. Ils ne peuvent pas se hasarder, aller bricoler chez quelqu'un. Jamais ils ne font, à moins qu'ils cherchent la mort. Ils sont très intelligents. Et si vous voulez voir les gens qui sont intelligents, allez en prison. Il y a des gens ingénieux qui falsifient des choses, mais qui sont incroyables. En prison, vous avez ces gens de personnes-là. Vous voyez donc, quand un voleur doit venir voler, il se renseigne. À quelle heure madame sort, le monsieur sort, à quelle heure il dort, est-ce qu'il y a un gardien, est-ce que c'est un policier, est-ce que c'est un gendarme, a-t-il des armes ou pas, il se renseigne, est-ce qu'il est riche parce qu'il ne veut pas les voler chez quelqu'un qui n'a rien du tout, qui n'a même pas de chaise ni de télévision. Il se renseigne. Quand il voit qu'il y a tout cela, ils peuvent même être complices avec les gardiens. Et quand l'information est donnée par le gardien, ils savent à quelle heure l'opération a lieu, quand le patron voyage ou bien quand il n'est pas là, ils viennent au père et ils s'en vont. Le péché opère exactement comme des complices. Quand le péché est dévoilé, quand il est dénoncé et quand nous sommes pardonnés, c'est comme si dans une maison, les complices avaient été enlevés. Donc les voleurs ne peuvent plus venir voler facilement dans une maison dans laquelle il n'y a aucune référence d'indication en termes de complices ou en termes de gardiens. Ils ne peuvent pas le faire. Si dans nos vies, nous invoquons le sang de Christ, les démons ne peuvent pas avoir accès à nous. Ce n'est pas possible. Et comme le dit Abidjan, ils vont passer par où? Ils vont passer par où? Pour aller où, puisqu'ils n'ont pas de référence à nous. Il n'y a pas de référence. Quand ils viennent, ils ne voient aucune lumière, ils ne voient aucune porte. Ils sont brouillés, ils sont dans le brouillard. C'est comme un avion. Un avion ne peut pas descendre s'il n'y a pas d'indication par les panneaux luminaires qui indiquent que c'est ici maintenant l'aéroport avec les signaux rouges qui indiquent que c'est l'aéroport. Si ça n'existe pas, il ne peut pas avoir d'atterrissage. Donc Satan ne peut pas venir, les démons ne peuvent pas opérer si en nous le péché a été effacé. Alléluia! Ça, c'est l'acte de délivrance par excellence. J'ai eu l'occasion, à d'autres occasions, à des vers de prière, de revenir sur ces choses-là. Donc en clair, le sang de Christ opère la délivrance par ce moyen-là. Mais je voudrais continuer, puisque nous partons vers la fin, pour insister sur, n'est-ce pas, le septième acquis que nous apporte le sang de Dieu qui nous arrête. C'est-à-dire que le ciel et la terre ont été réconciliés à travers l'œuvre de Christ, à travers son sang. Dans 1 Colossiens chapitre 19, verset 20, voilà ce qui est écrit ici. Quand il a plu à Dieu de faire habiter en lui, c'est-à-dire en Jésus, toute la plénitude, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix, de tout réconcilier. Quand le péché est venu ici, les cieux, c'est vraiment le contact avec le Père. C'est comme s'il n'y avait pas de dialogue, c'était brouillé complètement. Les gens cherchaient Dieu en tâtonnant, complètement dans l'Ancien Testament. Ils cherchaient Dieu à travers les pratiques, les lois de Moïse. Les portes du ciel étaient fermées. Mais quand Christ est mort et que son sang a été coulé, les cieux et la terre ont été réconciliés. Les cieux et la terre ont été réconciliés. Les cieux et la terre ont été absolument réconciliés. Et suivez-moi très bien. C'est-à-dire que ce qui était impossible auparavant est devenu possible parce que, j'ai lu à le dire la dernière fois, que le sang de Christ a fait l'aspersion du ciel. Et j'ai même posé une question à un frère. Est-ce que les démons et Satan continue toujours à assister au conseil des dieux? Il n'y a pas eu de réponse de manière précise. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Christ est mort à la croix et que son sang a coulé, les cieux et la terre ont été réconciliés. Les cieux représentent, n'est-ce pas, la rosée du ciel, les bénédictions spirituelles, les besoins divines, les vraies bénédictions. Bien sûr, il y a les besoins matériels. La terre représente ce qui est matériel, ce qui est terrestre. Or, les bénédictions spirituelles sont supérieures, sont au-delà, ont plus de valeur que les bénédictions terrestres et matérielles. Donc, quand les cieux et la terre ont été réconciliés, n'est-ce pas, le sang de Jésus-Christ de Nazareth a opéré cette union. Si bien qu'aujourd'hui, il est possible, en même temps, d'avoir l'autorité spirituelle, l'autorité divine, venant de Dieu, les dons spirituels, la manifestation des œuvres de Dieu, on peut être un chrétien épanoui, oint, spirituel, et en même temps aussi jouir des biens de la terre. C'est ce qui était déjà prophétiquement écrit, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 28, lorsque Isaac a déclaré à Jacob que Dieu te donne la rosée du ciel et les ressources de la terre. Nous voyons également la même déclaration se fait dans Osée, lorsque Dieu dit que la terre exaucera le blé. La terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile, et ils vont exercer Jisriel. C'est écrit dans Osée chapitre 2, verset 23. En ce jour-là, j'exaucerai, oracle de l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exorceront la terre. En ce jour-là, quel est en ce jour-là? C'est lorsque Christ est venu et que par son sang, il a fait la réconciliation du ciel et de la terre et que la Pentecôte, la puissance de Dieu s'est manifestée. Donc Dieu dit ici que en ce jour-là, oracle de l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exorceront la terre exaucera le blé, c'est-à-dire la parole de Dieu, exaucera le vin nouveau, le symbole du Saint-Esprit, ils vont exaucer l'huile, c'est-à-dire que le symbole de l'onction du Saint-Esprit. Et ensuite, ils exauceront la terre. C'est-à-dire qu'ils vont exaucer Israël. Israël, c'est le symbole de l'Église. C'est là où l'assemblée de Dieu, c'est l'Église. Donc, en fait, lorsque le sang de Christ a coulé à la croix de Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux et la terre ont été réconciliés. Donc, la terre, le ciel exauce la terre. C'est-à-dire que si maintenant, moi, je prie, les cieux sont favorables. Chers frères, chers sœurs, si vous priez à cause du sang de Christ, le ciel vous sera favorable. Le ciel, que la demeure de Dieu vous sera favorable. Aucun démon ne pourra bloquer votre prière. Aucun démon ne pourra bloquer la réponse à vos prières. Parce que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, il a réconcilié les cieux et la terre. Cette compréhension des Écritures a des effets importants au niveau de la foi. Ça veut dire que si moi je prie dans ma chambre, je crois que par le sang de Christ, les cieux et la terre ont été réconciliés. Alors, je prie avec assurance. Je prie avec confiance. Quand je supplie Dieu, je sais qu'il m'écoute. Parce que je sais que les cieux et la terre ont été réconciliés à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, et sur la vie duquel le sang n'est pas répandu, les cieux de la terre ne sont pas réconciliés. Les cieux de la terre sont séparés. Quand la personne prie sur la terre, ça ne monte pas au ciel. Ça ne monte pas au ciel. Ça ne monte pas au ciel. Mais par le sang de Christ, les cieux et la terre ont bel et bien été réconciliés. Septième bénédiction ou acquis dont je voudrais parler par lequel je vais finir, c'est que par le sang de Christ, par le sang de Christ, la parole de Dieu, nous avons la guérison. Nous avons la guérison. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53. Prenez vos Bibles dans Ésaïe 53. Il dit ceci, et de manière claire. Et je voudrais que même si, maintenant, même pendant que je parle, vous sentez en vous la douleur, et que cela paraît difficile. Vous savez, Dieu est souverain. Mais il est bien de croire en la parole. Même si vous ne devez pas vivre, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas toujours. Des fois, on prie pour des personnes qui, malgré tout, bon, vont auprès du Seigneur. Dieu l'a décidé ainsi. Mais tant que Dieu ne vous dit pas que vous ne serez pas guéri, tant que Dieu ne vous dit pas que vous ne serez pas délivré, tant que Dieu ne vous dit pas clairement, comme l'a dit l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Tant que Dieu ne vous dit pas clairement, croyez que à cause des maîtres de Jésus-Christ, vous êtes guéri. Ne croyez pas en Gadi Abraham, ce n'est pas mon évangile, ce n'est pas l'évangile de quelqu'un, d'un bishop, archibishop. C'est Dieu qui l'a dit. C'est 700 ans avant la croix de Christ, c'est écrit dans Ésaïe 53. 700 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Regardez ce qu'il écrit dans ce passage, Ésaïe 53, verset 4, verset 5. Il dit 7, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Par ses maîtrissures ou par ses blessures. Quand on parle de maîtrissures de blessures, ça veut dire qu'il y a le sang. Le sang coule. Quand on prend un couteau, quand une femme coupe, s'étale les ongles ou bien, n'est-ce pas, à la cuisine, n'est-ce pas, veut couper la viande ou le poisson ou les oignons, et que par inadvertance elle se blesse, le sang coule, c'est une blessure, c'est une maîtrissure. Donc quand on parle de blessure de maîtrissure, on parle de l'écoulement de sang. Alléluia. Donc quand la Bible déclare ici que c'est par les maîtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris, la Bible dit aussi que c'est par son sang que nous avons la guérison. Pourquoi? Je l'ai dit plusieurs fois, dans le sang il y a la vie. Écoute-moi très bien. Dans le sang, il y a la vie de Jésus. Quand Jésus verse son sang, il verse la vie. Donc, quand j'invoque le sang de Jésus-Christ et que je proclame la guérison, n'est-ce pas, à travers ses maîtrissures, ça veut dire que je fais appel à la vie qu'il a donnée pour moi et la vie se manifeste dans ma vie. dans mon corps, dans mes os, dans ma chair, dans mes nerfs, dans mes poumons. Je crois à la guérison divine. Chers frères, chers sœurs, la guérison n'est pas pour le passé. Je crois à la guérison. Je crois au miracle. Les miracles existent. Autrement dit, Christ serait mort enfin. Ici, avant même que Christ ne naisse physiquement. Il dit que par son sang, c'est prophétiquement que Isaïe l'a dit. C'était fait déjà. Il dit, nous sommes guéris. Avant que moi je ne naisse, moi Gadi Abraham, ou vous, Roger, ou Micheline, ou Emmanuel, ou Robert, ou je ne sais quoi, David, avant que vous ne naissiez, c'est-à-dire que le sang de Christ avait déjà été versé pour vous et déjà vous avez été guéri. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il dit, nous sommes guéris. Ce n'est pas dit que vous serez guéris, nous sommes guéris. Qu'est-ce que je fais? Je confesse la parole de Dieu. Seigneur, ta parole déclare que par tes maîtrises, je suis guéri. Mais tu vois que dans mon corps, il y a le principe de la maladie. Ok, c'est vrai. Mais à cause du sang de Christ, le principe de la maladie doit mourir. Chers frères et chers sœurs, quand vous coupez un arbre et que vous arrachez les racines d'un arbre, quand l'arbre tombe, l'arbre a tous ses fruits. Les feuilles sont toujours vertes. Il faut combien de temps pour que les feuilles sèchent et que les branches sèchent? Il faut du temps. La sève n'est plus là, mais l'arbre est toujours là. C'est comme ça le principe de la guérison. Surtout divine. Quand nous confessons que nous sommes guéris, le principe de la maladie qui était en nous est mort, est détruit, est vaincu. Mais les œuvres de la maladie peuvent toujours se manifester. C'est pourquoi il faut continuer à se fortifier dans la parole de Dieu, à résister aux mensonges du diable et à se revêtir des armes spirituelles en continuant de confesser la victoire et la vérité, n'est-ce pas, que nous avons à travers la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons à l'église une sœur au campus au feu. Dieu nous a mis à cœur de monter une tour de prière à Mont Carmel. Et c'est jusqu'au 31 décembre, tous les soirs, de 18h30 à 20h30. Nous prions tous les soirs, de 18h30 à 21h des fois. Une sœur est venue nous voir il y a à peine un mois. Elle nous a déclaré, après avoir fait plusieurs examens, elle a dit au groupe qui était là, parce qu'on se réunit souvent à 20, à 30, des fois 40, des fois 50, des fois 80, ça dépend des jours. Elle avait dans sa main un papier, un examen médical, fait dans un grand laboratoire de la place. Elle dit, pasteur, j'ai été dans un hôpital et le médecin m'a demandé d'aller faire un examen. Et je suis allé faire l'examen et il a été décelé au niveau du corps de mon utérus une tumeur cancéreuse. Écoutez très bien. La sœur dit que selon l'analyse médicale faite par le laboratoire, examen fait avec les papiers à l'appui, il a été décelé à moi que, au niveau du corps de l'utérus. Vous savez, le sein de la femme et le corps du terroriste sont souvent des endroits sensibles par rapport, n'est-ce pas, au cancer. C'est un peu comme chez l'homme, c'est au niveau donc de son sexe, tout ça. Et donc, c'est des endroits qui sont très sensibles aux tumeurs cancéreuses. Cette femme avait commencé à développer une tumeur cancéreuse. Le cancer ne se guérit pas. Le cancer ne peut se guérir par Dieu. Ça, c'est soin, mais guérir un cancer, c'est comme le sida. C'est l'intervention miraculeuse de Dieu qui peut guérir quelqu'un atteint du cancer. On était influencés. Nous étions là. On a pris la sœur, on l'a mise au milieu. Nous l'avons entourée, nous avons fait à peu près une quarantaine de personnes. Nous avons prié, nous avons invoqué le nom du Seigneur, nous avons invoqué le sang de Jésus de Nazareth. La dame est partie. Deux jours après, elle est revenue et dit, pasteur, je dois repartir encore faire d'autres examens avant qu'on me soumette à un traitement. La sœur, c'est une sœur simple. Elle vend, n'est-ce pas, des queues de bœuf, des pas de bœuf. Elle n'a pas assez d'argent. Même les riches ont du mal à soigner, n'est-ce pas, le cancer, être guéri du cancer. Après, pour une raison, une jeune dame qui avait des enfants, qui n'est pas mariée, qui n'a pas de grands biens. Comment elle pouvait? Sa situation, c'était grave. Elle était condamnée à mourir. Beaucoup de personnes qui m'écoutent, souvent, sont condamnées à mourir. Croyez à la parole de Dieu. Ne croyez pas en Gadi Abraham. Croyez à ce que le Seigneur dit, que par les maîtres de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Confessez cela. Elle est revenue encore. Elle dit, parce que c'est demain, je dois aller faire mon examen. Je veux qu'on prie encore pour moi. Elle avait la foi. On a prié pour elle. Elle est partie. Elle est partie refaire d'autres examens. Il y avait déjà eu d'autres examens. Elle est allée encore faire la suite des examens. Refaire le même examen. Avant qu'on ne procède au traitement. Elle va faire les examens. Elle revient le lendemain en souriant. Elle s'appelle Jeanne. Jeanne, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis parti. Ils ont fait mon test. Ils ont fait le traitement. Ils ont procédé à l'examen. Et son laboratoire, voici, j'ai vu. C'est pas des choses. C'est pas un sentiment de guérison. J'ai vu l'enveloppe. J'ai vu. La sœur dit. Ils ont regardé pour une deuxième, troisième fois. Il n'y a eu aucune trace du cancer. Le cancer, les traces du cancer ont totalement disparu. Je dis bien disparu. Dimanche, je l'ai montré à l'église. J'ai vu les gens sauter. On dit, mais Dieu, tu es vivant. Les traces du cancer ont disparu après seulement des temps de prière. J'ai dit, le sang de Christ nous accorde la guérison, car c'est par ses maîtres que nous sommes guéris. Une autre personne, une autre soeur, qui perdait du sang, un peu comme dans le passage de Marc chapitre 5, elle perdait du sang, elle avait été frappée au doigt, elle perdait du sang. Elle perdait du sang. Une jeune dame vraiment simple qui perdait du sang, qui perdait du sang. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça durait des mois et des mois. Elle est venue la prière, à la tour des prières Mont Carmel, où nous prions tous les soirs. Elle s'est mise au milieu, on a prié pour elle. Une semaine après, elle dit, pasteur, on a prié, on donne l'information. Pasteur, on a prié pour moi. Le sang qui coulait s'est arrêté. Je dis bien, il y a la victoire, la guérison à travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris par ses maîtrissures. Oh, je crois à la parole de Dieu. Chers frères, chers sœurs, même si dans votre corps, si dans votre sein, dans vos entrailles, dans vos reins, dans vos yeux, dans vos mains, il y a la maladie, confessez la parole de Dieu qui déclare que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, gardez un moment de silence. Si vous sentez que cette parole de Dieu vous touche, gardez un moment de silence. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Votre conscience vous gronde-t-elle par rapport au péché? Par rapport à des avortements, par rapport à des choses passées, invoquez le sang de Christ, afin que la voix qui vous accuse se taise à jamais. Vous sentez-vous dominé par le principe du péché ou du mal? Invoquez le sang de Christ, il vous pardonne de vos péchés. Alléluia. Sentez-vous le triomphe de l'ennemi sur vos vies? La Bible déclare que par son sang, nous avons été rachetés la vanité, la vaine manière de vivre. Sentez-vous des accusations de l'ennemi? Sachez une chose, en évoquant le sang de Christ, tous les actes qui vous condamnent, tous les actes qui vous ouvrent l'accès à l'ennemi ou qui ouvrent l'accès de l'ennemi à vos vies, ces actes sont effacés. Le film est vide. Le film est effacé. Il n'y a plus de documents, il n'y a plus de preuves. L'avocat suprême, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a plaidé pour vous. Et Dieu le Père vous déclare innocent, non coupable. Il vous relâche. Soyez relâchés dans vos sentiments. Soyez relâchés dans vos pensées. Soyez relâchés dans vos entrailles. Soyez relâchés dans vos émotions. Croyez à la parole de Dieu. Et la dernière chose pour laquelle on va prier maintenant, c'est par rapport à la guérison. Chers frères, chers sœurs, les cas que j'ai cités, ce n'est pas les cas il y a 10 ans, c'est les cas qui sont produits dans ces derniers jours, dans le mois de février. Dans ce mois de février, c'est maintenant. Ça s'est passé en février 2008. Dieu est le Dieu qui agit, le Dieu qui est réel. Chers frères, chers sœurs, vous sentez en vous le mal qui persiste, un mal pernicieux? Dites maintenant que je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, qu'à cause de sa mort, j'ai obtenu la rédemption et la justification. Et à cause de sa mort, mes péchés sont pardonnés. Confessez vos péchés. Confessez-les de manière précise. S'il y a des choses que vous avez faites, donc qui vous vient à l'esprit, ne faites pas une confession générale, vague. Faites une confession précise avec les femmes de sortie. Dites leur nom et quand. Soyez le plus précis possible. Si c'est l'argent volé, si tout le montant est où. Mais dites tout à Dieu. Et maintenant, invoquez le sang de Christ. Et si la maladie est là, dites maintenant que comme le sang de Christ m'a purifié, m'a pardonné, maladie, je dis une seule chose. Tu es venu pour apporter la mort parce que tu viens du diable. Mais je déclare sur la base de la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 53, que par les maîtrises de Jésus-Christ, je suis guéri. Esprit de maladie ou principe de maladie, je te lis. Je lis tes œuvres. Je détruis tes œuvres à la racine. J'arrache la source de la maladie et je proclame que par les maîtrises de Jésus-Christ, mon frère et ma soeur sont guéris. Les entrailles sont libérées. Le sang est purifié. Les nerfs sont revigorés. Les yeux voient. Les sourds entendent. Les mieux parlent. Les pieds se redressent à cause du sang de Christ qui a été versé et à cause de ce que par ses maîtrises, nous sommes guéris. Mon frère, quoi la guérison? Pendant que je te parle, le Saint-Esprit te visite et tes yeux commencent à voir clair. Pendant que je te parle, ton esprit a conscience, un témoignage intérieur que effectivement tu es guéri. Tu ressens maintenant en toi la confiance, l'assurance. Ton visage change, tout sourit. Le Saint-Esprit a changé ton visage parce que par les maîtrises de Jésus-Christ, vous êtes guéri. Tu es guéri, je suis guéri. C'est fait il y a 2000 ans et c'est fait. Le cachet de Dieu a été mis dessus. Tu répares de ce lieu, tu répares d'ici ou de ta chambre, ta voiture, avec la conviction que tu es guéri. Tu as reçu en toi la semence de la guérison. Laisse la parole de Dieu, avec la foi, les actions de grâce, faire germer la guérison, comme dit la parole de Dieu. Et de tes yeux, tu verras que le mal qui te pénissait, qui te fatiguait, est parti. Tu as retrouvé
toute ta vigueur, ta virilité, ta fertilité, ta fécondité, ta force, ton courage. Tu marches, tu sautes et tu en vis. Le sang de Jésus qui nous arrête est puissant. Gloire à Dieu.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.